Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique, qui revient sur la semaine politique québécoise et canadienne. Trois sujets, la nomination de Borja Manay comme commissaire à la lutte au racisme de la ville de Montréal, les questions d'Yves François Blanchet sur le nouveau ministre des Transports Omar Al-Rabre et l'indignation de Justin Trudeau, et le député Derek Sloan et le Parti conservateur du Canada. Mais tout d'abord, Joseph Facal, professeur à HEC Montréal et chroniqueur pour le Journal de Montréal, souligne à quel point nous avons perdu le sens de la survie et de la contrainte pendant une crise. Serions-nous trop gâtés, trop douillets, et aurions-nous oublié les sacrifices de nos ancêtres et ce que d'autres populations endurent au quotidien? Joseph Facal, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette entrevue. C'est votre troisième ou quatrième de la saison. Nous en sommes bien honorés, bien heureux. Vous écriviez, je crois que c'était le 9 janvier, dans un papier du Journal de Montréal, vous lamentiez donc de notre mollesse collective. Voilà ce que vous disiez: « Moi, quand je nous écoute brailler, je me désole, et quand je nous compare, j'ai un peu honte. » On parle évidemment de la crise de la COVID et de la façon dont la population réagit aux directives gouvernementales. Vous allez fort, non?
Écoutez, il est certain. Oui, je suis là, je suis là. Il est certain que le titre se voulait délibérément provocateur, et je crois que j'ai fait mouche quand je vois l'avalanche de réactions reçues. Mais c'est tout à fait ce que je pense. Je pense que cette crise est comme une loupe. Elle a une sorte d'effet grossissant qui a fait voir le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est qu'il y a eu d'authentiques gestes de solidarité. Le pire, c'est aussi, bien entendu, le dévoilement de la fragilité de notre tissu économique, de réelles fractures sociales, mais aussi, et c'était votre point introductif, à quel point souvent nous perdons le sens de la mesure, et je vous dirais même, au-delà du sens de la mesure, c'est comme si dans une société qui met le plaisir et l'amusement en avant de tout, c'est comme si cette espèce d'homo festivus avait perdu le sens du tragique. Car voyez-vous, je refuse de considérer comme tragique le fait de ne pas pouvoir aller au restaurant ou au Carrefour Laval quand je nous compare à d'autres personnes ailleurs dans le monde et à nos ancêtres.
Homo festivus, c'est l'expression de Philippe Muret, je pense, un essayiste français qui est décédé à 50 ans, je pense, très caustique, très drôle, mais derrière, ça grince énormément, très drôle, sur le côté un peu douillet, le côté l'Empire du Bien, d'ailleurs, c'est un de ses bouquins. Donc Philippe Muret, M-U-R-A-Y, qui a baptisé, qui a créé cette expression homo festivus, tout est festif, tout est beau, et dès qu'il y a un bobo, on passe tout de suite au tragique, alors qu'il n'y a aucune gradation entre le bonheur barbe à papa et la tragédie la plus totale. Je vous comprends bien, Joseph Facal?
Tout à fait. En fait, je crois que l'une des choses que cette crise a révélée, on le savait déjà, mais là, c'est apparu de manière absolument massive, c'est que, d'une certaine manière, l'Occident, s'est modernisé, le Québec dans la foulée, et cette modernisation, c'est bien entendu jouer sur le registre de l'émancipation, de la liberté. Et bien entendu, il fallait baliser cela. Et tout ce qu'on a trouvé comme moyen de baliser, comme moyen de réguler, c'est le droit. Et de là, évidemment, on en est venu à juger le droit. Un droit que l'on veut sans contrainte, y compris le droit d'aller dans le sud, par exemple, quand ça vous chante. Et je crois, là, M. Trottier, qu'il y a une réflexion à mener sur cette incapacité, finalement, d'une logique strictement juridique à régler tous les problèmes qui se posent à nous. Est-ce qu'on peut faire simplement du « j'ai le droit de » Est-ce qu'on peut en faire le ciment du social? Je pense pas. Mais que
Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... Pardonnez-moi, Joseph Facal, mais si tout le monde invoque son droit d'aller au sud, de ne pas aller travailler, de déprimer, enfin que sais-je, enfin, il y a mille et un droits, indexés davantage sur le ressenti de la personne plutôt que sur des normes juridiques, diriez-vous qu'il faut bien que quelqu'un derrière... pédale dans les coulisses pour pouvoir maintenir cette pièce de théâtre. C'est bien gentil de dire que tous les acteurs ont le droit d'eux, mais il faut bien qu'il y ait des machinistes derrière, des gens de l'ombre, des gens modestes, des gens, des vrais travaillants, des gens qui peut-être souffrent vraiment également, qui eux n'ont aucune voix au chapitre, mais qui eux vont assurer le maintien de la chorégraphie. Vous me suivez un petit peu?
Mais bien entendu. En fait, c'est que non seulement au nom du « j'ai le droit », on s'imagine que le droit peut se substituer au respect, qu'il peut se substituer à l'éthique, qu'il peut se substituer à une délibération politique qui implique forcément des compromis, compromis que certains refusent de faire. Mais en plus, évidemment, on peut, excusez-moi, se plaindre le ventre plein, parce que certains, eux, montent au front. Et ici, je voudrais, par exemple, vous partager une statistique que j'ai trouvée proprement sidérante. La revue britannique The Economist nous apprenait que 60% des gens qui gagnent 100 000 $ et plus, eux, peuvent faire du télétravail. Alors que parmi les gens qui gagnent 40 000 $ et moins, il n'y en a que 10% qui, eux, peuvent travailler de chez eux. Autrement dit, les pauvres, eux, n'ont pas le choix. Eux doivent sortir. Eux sont exposés aux risques sanitaires. Et pendant que eux tombent comme des mouches, nous, on se plaint de ne pas pouvoir aller au centre d'achat. Et donc là, évidemment, je dois admettre que tout cela m'a sidéré, déçu, d'où évidemment mon coup de cœur. Et si vous permettez, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Beaucoup de gens, en ce moment, au Québec, en appellent à un sursaut autour de l'identité nationale, autour du redressement de la langue française, autour, par exemple, d'une reprise du combat pour l'indépendance nationale. Et bien entendu, j'en suis. Mais tout cela, on en conviendra, ce sont de vastes chantiers qui nécessiteraient courage, résilience, abnégation, il y aurait des turbulences, ce ne serait pas de tout repos. Et les mêmes, ensuite, viennent brailler parce qu'on ne peut pas aller au restaurant. Sérieusement. Et bien entendu, vous disiez tout à l'heure qu'il y a les petits, hein, ceux qui tiennent le fort pendant que les autres braillent. En fait, c'est plus profond que cela. Notre société est en quelque sorte prise dans ces divisions. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout aboutit évidemment sur le bureau du gouvernement, qui devient finalement le bouc émissaire de nos propres incapacités individuelles et collectives.
Alors justement, là, Joseph, avez-vous fini, Joseph Facal, ou pas?
Oui, bien sûr, allez-y.
Ça pose également la question en filigrane, ce que vous posez comme question, c'est le rapport du citoyen, vous, moi, n'importe qui d'autre, et de l'État face au bien commun, le rapport du citoyen face au bien commun, et quel est le rôle qu'il attribue à l'État comme, si vous voulez, interface entre un bien commun et un bien individuel. Tout cela mérite... J'ai l'impression... Vous savez, c'est dans les pages de votre journal, le Journal de Montréal, où on entend souvent « gouverne-maman ». On a l'impression que la maman va nous donner un chèque, la maman va nous faire ceci, la maman va nous faire cela, c'est le propre d'une maman du reste. Mais le méchant papa, on ne le voit pas très bien, et dès que la maman devient un peu papa, ah, là ça commence à crier dans la couvée, si j'ose dire.
Oui, en fait, je ricane, mais ce n'est pas drôle du tout. C'est-à-dire qu'on va d'un extrême à l'autre. Oui. Quand, évidemment, on est en difficulté, on se tourne vers le gouvernement et on lui demande tout, absolument tout. Et toutes les aides qu'il envoie sont insuffisantes. Par contre, à l'autre extrême, quand le gouvernement du Québec prend des mesures sanitaires très modérées en comparaison de ce qu'on a vu dans d'autres sociétés, alors là, on hurle aux mesures liberticides. C'est comme si on allait d'un extrême à l'autre, et ce qu'on a perdu, c'est un petit peu le sens de la mesure. Je crois que c'est Gilles Vigneault qui s'interrogeait sur cette extraordinaire émotivité de la société québécoise, ce caractère un peu juvénile, j'ai presque envie de dire adolescent, je ne sais pas, peut-être est-il propre au Nouveau Monde, qui fait qu'on s'emballe très, très soudainement, on embarque, si vous voulez, disait-il, dans les trains de tous les modes idéologiques, mais finalement, souvent, on descend une station trop loin. C'est-à-dire que là où il faudrait retrouver le sens de la mesure, on n'y parvient pas. Et je crois, il faudrait que je vérifie mes sources, mais je crois que c'est le chanoine Grand-Maison qui jadis disait que nous sommes en déficit de jugement.
Et, tout à fait, et c'est lui qui disait ça, oui.
Oui, j'ai l'impression que cette crise, elle a dévoilé, pour reprendre le titre d'un de ses livres, que le jugement est en train de foutre le camp.
Vous avez dit, Joseph Facal, une chose. Nous sommes une société d'adolescents. Ça revient à ce que vous disiez il y a 5 à 10 minutes. On ne sait pas où placer le tragique. Le tragique, c'est l'entrée dans la vie adulte et l'entrée dans le monde du tragique. Et quand je parle de tragique, je parle de tragédien grec, d'Euripide, de Sophocle, de d'Eschyle ou de la tragédie française, Corneille, Racine, tout cela. Le tragique, c'est vraiment la limite infranchissable au-delà de laquelle il y a la mort. Les dieux sont contre nous, le destin, et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit se serrer les fesses. Se limiter, comprendre qu'on n'est pas dans un monde indéfini et infini dans le mauvais sens du terme. On est dans un monde avec certaines possibilités et pas d'autres. Et c'est ce que le gouvernement et la pandémie viennent nous rappeler. Un adolescent ne veut pas se faire dire non. Est-ce que je simplifie à outrance ou pas ?
Non, vous ne simplifiez pas à outrance. Vous le dites d'une manière courte et imagée, faute de temps. Mais c'est exactement ça. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle illustration du refus du tragique que, par exemple, la façon dont certains de nos aînés sont traités et la manière dont nous avons collectivement réagi à l'hécatombe dans les CHSLD en disant « Oh mon Dieu !» comme si nous n'avions pas été avertis depuis des décennies de la situation qui y prévalait. Non, on les a parqués dans ces mouroirs, on les a mis loin des caméras, parce que précisément, nous avons du mal dans des sociétés devenues des espèces de cyber-Disneyland à assumer la finitude de la vie humaine. Vous savez, M. Trottier, il y a quelques années, j'avais vécu en Espagne, vieille société, avec des racines infiniment plus profondes dans le sol, avec ce que ça peut avoir de bon et de moins bon, relativement, par exemple, à la pesanteur du passé que l'on sent dans le quotidien. Et j'étais tout à fait frappé de voir comment, toutes les fins de semaine, au parc, les familles se réunissaient à 3 ou 4 générations. Et papy, souvent totalement sénile, n'était pas parqué en jaquette avec un soluté. On le sortait dehors et les petits-enfants étaient autour de lui. C'est un rapport à l'existence qui assume beaucoup plus frontalement que nous qu'il y a du tragique dans la vie et il faut y faire face avec courage. Et la crise non seulement a dévoilé ce déficit de courage, mais elle a également dévoiler cette attitude, je vous dirais, hautaine, moqueuse, presque mesquine, de ceux qui semblent même se faire une espèce de joie exhibitionniste de dire aux autres « je m'en fous ». Bon, vous allez me dire évidemment que c'est anecdotique, mais je ne peux pas m'empêcher de voir le sourire satisfait de ces gens interviewés à l'aéroport qui nous disent « ben oui, je reviens tout de suite et je ne regrette rien ». Ou encore ces madames qui se filmaient au centre d'achat de Rosemère en train de bafouer les directives. Il y a là une sorte de mélange d'exhibitionnisme, de victimisation, d'infantilisation, de refus d'assumer la moindre contrainte qui est Et la hargne avec laquelle mon propos a été reçu me donne à penser que j'avais, comme on dit en bon québécois, mis le doigt sur le bobo.
Objection à votre seigneurie, comme on dit dans les, dans les tribunaux. Objection un peu infléchie quand même. Nous sommes d'anciens catholiques au Québec, ou au Canada français, on disait à l'époque. On avait l'habitude de laisser dire l'Église. L'Église disait le bien et le mal, et puis la population n'avait qu'à se clouer le bec, en général, n'est-ce pas? On avait souvent, et ça a été dénoncé par, je pense, Pierre Elliott Trudeau dans Cité Libre, je crois. À moins que c'était Gérard Pelletier. Alors, il disait que, oui, les Canadiens français sont des gens qui se comportent de façon morale à l'extérieur parce que l'Église leur a dit que, et que sinon, on va peut-être en enfer. Donc, on va être de façade, en tout cas morale, mais dans la sphère privée, on fait un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on dit oui aux médecins, d'ailleurs, on le fait maintenant, on dit oui aux médecins qui nous disent de prendre telle pilule, telle autre, ou ne pas faire ci et ça, et sitôt le dos tourné, on n'en fait qu'à notre tête. Ce que vous décriez au sujet du comportement collectif, malgré certaines exceptions évidemment, du comportement collectif des Québécois face à la pandémie et aux directives gouvernementales, est-ce qu'il n'a pas une racine dans cette espèce de passivité citoyenne face à une Église catholique omnipuissante qui disait « si tu vas à droite, tu vas au paradis, si tu vas à gauche, tu vas en enfer » ou vice-versa?
Oh, d'abord, nuançant, je oui. crois que la majorité des gens a eu un comportement peut-être pas exemplaire, mais la majorité a eu un comportement louable. Ce que je découvre, c'est, disons, l'ampleur de la minorité qui, elle, refusait de suivre, et peut-être pas tellement son ampleur numérique que son espèce de, comment dire, de fierté de s'exhiber. Vous savez, si vous voulez faire dans la désobéissance civile, et il y a des cas glorieux à cet effet, disons qu'il y a des causes nettement plus valables, n'est-ce pas, que choisir de désobéir à un couvre-feu en promenant son conjoint au bout d'une leste de chien, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. Si vous voulez protester pour des causes qui en valent la peine, il y en a d'autres. Bon, pour le reste, je ne crois pas que l'on puisse espérer un quelconque retour du sacré. Mais indiscutablement, il a laissé un vide que les éthiques laïques ne parviennent pas à combler, ou en tout cas pas le type d'éthique laïque que l'on a construit. Et bien entendu, cela amène sur une autre piste que nous pourrions développer pendant des heures, qui est quelle éthique enseigner en 2021? J'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question, mais assurément, la pandémie a révélé une sorte des angles morts, si vous voulez, dans dans le rapport des citoyens les uns aux autres. Et j'ose espérer que une fois qu'on sera passé à travers ceci, on réfléchira, n'est-ce pas, à des questions autres que simplement avoir assez de masques et assez de vaccins pour la prochaine fois là.
En une minute, Joseph Facal, j'ai l'impression qu'on ne réfléchit jamais aussi bien que quand on a perdu quelque chose. On est encore dans l'espoir que tout reviendra à la normale. Est-ce qu'il... Encore, je reviens au tragique, encore une fois, et au passage au monde adulte. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait un sacré coup de massue, qu'on ait vraiment une perte irrémédiable pour pouvoir se mettre à réfléchir aux vraies affaires, comme disait François Legault?
Oh ben je crains que oui. Je crois que... Pardonnez-moi de le dire aussi brutalement, mais je crois que la hauteur du rebond est souvent proportionnelle à la hauteur de la chute. Et donc, oui, il faut se faire mal pour comprendre. Je le crains. Sinon, évidemment, vous serez ravalé à un propos de politicien ou de bonimenteur qui écrit des chroniques. Non, il faut que les gens, évidemment, l'éprouvent dans leur chair, n'est-ce pas, pour comprendre. Je vous donne simplement un exemple.
En 30 secondes.
Voilà, au tout début de la pandémie, nous avons découvert notre ultra-dépendance à l'endroit de la Chine pour avoir tout simplement des masques et des blouses. Et bien, pendant 20 ans, 30 ans, nous avons laissé aller nos industries manufacturières. Ah, aujourd'hui, comme on le découvre et comme on le regrette. Mais il a fallu en arriver là pour faire cette prise de conscience.
On va terminer sur ce vers d'Alfred de Musset dans La nuit de mai. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître.
Oh, que c'est bien dit.
C'est bien dit, hein? Oui. Joseph Facal, professeur à HEC Montréal et chroniqueur pour le Journal de Montréal. Je vais apprendre à prononcer correctement. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Allez, à une prochaine. À venir sur les ondes de Radio-VM, la semaine politique québécoise et canadienne. On vous revient sur les ondes de Radio-VM.